Chapitre 15. 15 jours après, lorsque les Aphtalions eurent réglé les dettes les plus criardes, ils se trouvèrent de nouveau dans le dénuement. L'automne prenait fin. Certains arbres avaient déjà perdu toutes leurs feuilles et donnaient à des coins de la ville, quand le vent soufflait, un aspect hivernal. Les nuits étaient froides. Dès que Louise ou son fils fermaient la fenêtre de leur chambre, une odeur de renfermé flottait aussitôt dans la pièce, tellement les murs étaient vieux. À mesure que le temps s'écoulait, ils se laissaient aller de plus en plus. Par paresse de chercher de l'eau, ils ne faisaient plus leur toilette. Auparavant, Madame Aphtalion enfermait les débris des repas en un paquet qu'elle allait jeter dans le premier égout. À présent, elle les laissait traîner dans la pièce. Par une sorte de coquetterie, elle avait pourtant réglé sa vie. À la tombée de la nuit, elle regagnait le taudis. Elle s'allongeait alors sur son lit, et après s'être couverte avec des hardes, passait des heures à regarder par la fenêtre les lumières qui, une à une, naissaient aux étages des immeubles voisins. Parfois, comme prise d'un sursaut, elle se rendait chez des parents ou amis, les implorait, puis tout à coup les quittait sans prononcer une parole. Nicolas, lui, ne se changeait plus. Lorsqu'il passait devant des œuvres de bienfaisance, il s'arrêtait en contemplation devant les murs de briques, les fenêtres grillagées, les écriteaux où étaient inscrites les heures de distribution, d'ouverture, de consultation. Au moment où les miséreux qui faisaient la queue entraient un à un dans le bureau, il s'éloignait comme si la houle qui passait sur eux eût déterminé en lui une répulsion plus grande que l'immobilité. Il errait alors à l'affût de quelques francs à emprunter. Quand la chance le favorisait, il entrait le soir avec des provisions. « Qu'est-ce que tu apportes dans ces paquets ?» demandait simplement sa mère. On était au commencement de décembre. Depuis 3 semaines, les Aphtalions n'avaient pas réglé leur chambre. Nicolas s'était aigri. Selon lui, le monde entier était responsable de son état. Quand, parfois, il rencontrait des gens qui riaient, une colère sourde l'envahissait. Il ne supportait plus la moindre contradiction. Un soir, en rentrant, il trouva sa mère bouleversée. Debout, les cheveux défaits, vêtue de cette robe de chambre qu'elle traînait depuis Genève, car cela avait été un des côtés de son caractère, de ne jamais acheter quoi que ce fût pour la maison, elle poussait des cris stridents et sanglotait tour à tour. Dans sa détresse, elle en était arrivée à n'avoir plus ni dignité ni pudeur, et à provoquer du scandale sans même s'en apercevoir. « Demain, il faut partir !» dit-elle en faisant des gestes désordonnés. Nicolas regarda le taudis. Tout y était en désordre. Sur la table, une photographie de son père était appuyée contre une tasse. Louise s'arrêta soudain et, les mains jointes, implora Alexandre. Il y avait quelque chose de tragique dans cette prière qui, au lieu de monter vers le ciel, s'adressait à cette image jaunie par les ans. « Père, balbutiait-elle, vois où nous sommes. Qu'allons-nous devenir? Fais un geste qui nous sauvera. Reviens près de nous. Aie pitié, je t'en supplie, aie pitié et sauve-nous. Sauve-nous et notre reconnaissance sera si grande que nous te suivrons, que nous serons à toi, que nous t'embrasserons les mains. » Madame Aphtalion tomba sur le lit en sanglotant. La respiration haletante, les mains fermées, comme si en les ouvrant à peine elle eût chuté dans un abîme, elle prononça des mots sans suite. Nicolas s'assit sur un tabouret et au bout d'un instant murmura « Tu peux toujours prier, cela ne changera rien. » Il était pâle. Sous l'indifférence qui l'affectait, la douleur de sa mère lui brisait le cœur. Pourtant, il se raidissait afin de ne pas s'apitoyer. Cette fois, c'était fini. Demain, il faudrait partir. Mais où aller? Soudain, Louise se tourna vers lui. « Va voir le propriétaire. Tu crois que cela fera quelque chose? Supplie-le. Je ne peux plus. J'aime mieux mourir que d'aller ainsi dans la rue. Tu es un homme tout de même. Supplie-le. Il aura confiance en toi. Je veux bien. « Dépêche-toi, je ne peux plus rester ainsi. Mais va donc, dépêche-toi, tu vois bien dans quel état je suis. » Nicolas descendit l'escalier sordide, rencontra un maçon qui regagnait sa chambre et entra dans le café dont une porte s'ouvrait au pied de l'escalier. Le propriétaire causait avec des clients. « Ma mère m'a dit que vous ne vouliez plus nous garder. »«
Parfaitement. »
Puis, radouci subitement, il appela sa femme.
« N'est-ce pas qu'on ne peut plus les garder ?»«
Qui ?» demanda une voix venant du fond de la salle.
« Les Astalions. »«
Tu le sais bien, puisque la chambre est retenue. »
Le propriétaire de l'hôtel était un peu gêné. Sentimentalement, il eût aimé à garder ses locataires, qu'il respectait vaguement.
« Vous voyez, c'est ma femme qui le dit. Ce n'est pas possible, même que je voudrais. D'ailleurs, vous ne pouvez rien nous reprocher. Nous avons eu de la patience. »
Nicolas remonta. Sa mère ne pleurait plus. Elle l'attendait, les joues marbrées, les yeux inquiets, comme rendue inconsciente par l'anxiété. Elle était à ce point accablée qu'elle n'eut pas même la force de poser une question. Tendant le menton en avant dans un signe interrogateur, blême et tremblante, elle prêtait l'oreille.
« Rien à faire, » dit Nicolas. Alors une sorte de détente fit que ses mains s'ouvrirent, qu'une éclaircie semblable à une expression rieuse courut sur son visage. Elle resta ainsi quelques secondes. Puis, comme si en un tel moment tout était possible, il lui apparut ainsi qu'un éclair qu'elle n'avait plus de jambes et elle tomba sur les genoux. Elle ne pleurait pas, mais un souffle rauque s'échappait de sa poitrine à une cadence qui n'avait rien d'humain.
« Allons, maman, ne reste pas comme cela. Lève-toi. »
Madame Astalion était frappée de mutisme. Ses lèvres avaient beau se mouvoir, elle n'articulait aucun son. De temps en temps, elle portait son regard sur son fils, puis le détournait brusquement. Il s'approcha d'elle et, la soulevant, la posa sur le lit. À peine allongée, pliant de nouveau les jambes, elle s'imagina qu'elle se trouvait encore à genoux et son visage eut les mêmes expressions que lorsqu'elle l'avait été réellement.
« Allons, maman, ce n'est pas si grave que cela. »«
Pas si grave que cela ?
Mais non, tout s'arrangera. »
Comme si une lueur venait d'éclairer son âme, elle parut se reprendre, puis, tout à coup, elle éclata en sanglots. Il était minuit. Nicolas, assis à la fenêtre, regardait les rares passants. Madame Astalion ne pleurait plus. Dans la demi-obscurité, on apercevait son visage pâle surélevé par un oreiller. De temps en temps, elle prononçait une phrase qui, sortant ainsi du silence, paraissait n'avoir aucun sens.
« Nicolas, tu m'entends ?»
Puis, un long moment après,
« Il faudrait réfléchir. »
Parfois, elle regardait son fils, mais c'était comme un moribond qui ne reconnaît plus les siens. On eût dit qu'elle ne le voyait pas. Faisait-il un geste à ce moment que pas un muscle de son visage ne remuait? Elle était si seule que les sentiments les plus profonds avaient cessé d'exister dans son cœur. Les yeux fixes, les mains molles et immobiles, on devinait qu'à cette minute, les pires mots l'eussent laissée indifférente.
« Nicolas !»
appela-t-elle d'une voix égale. Son fils se leva et vint s'asseoir au pied du lit.
« Tu devrais travailler !»
C'était la première fois qu'elle priait son fils de le faire. Aussi parut-il à Nicolas que cette exhortation, dite par sa mère d'une voix si changée, venait de plus loin qu'elle. Il eut conscience que quelque chose d'irrémédiable allait se passer, que sa liberté lui serait prise, qu'une vie sans joie de labeur commencerait demain et durerait des années.
« Qu'est-ce que je pourrais faire ?»«
Tu devrais travailler !» répéta Madame Astalion. Ses lèvres s'étaient à peine séparées pour prononcer ces mots. On eût dit qu'elle ne s'adressait pas à son fils, mais à un être imaginaire.
« Je n'ai pas de métier. »«
Fais n'importe quoi !»«
C'est facile à dire. »«
N'importe quoi !» Jamais les Astalions ne s'étaient trouvés dans une situation aussi tragique. À tout le monde, ils devaient des sommes plus ou moins grandes. Seul restait le moyen de le gagner.
« Quoi, par exemple ?» demanda Nicolas.
Le visage de Madame Astalion recommença de s'animer. Ses paupières se levaient et se baissaient tour à tour avec rapidité. Ses narines frémissaient. Elle entr'ouvrait la bouche, se mordait les lèvres, sourcillait sans interruption. Soudain, elle se mit de nouveau à sangloter, balbutiante entre ses larmes.
« Mon Dieu, que vous ai-je fait ?
Que vous ai-je fait pour que vous me fassiez ainsi souffrir ?
Calme-toi, maman.
Laisse-moi, je ne peux plus, je ne peux plus, je te jure que je ne peux plus.
Je t'en supplie, maman, ne recommence pas. Je t'ai déjà dit que tout va s'arranger. Je vais travailler. Alors tout ira mieux. Et un peu de patience. Madame Aftalion s'interrompit. Son fils, en qui elle n'avait vu jusqu'à ce jour qu'un enfant sans force, lui apparut tout à coup comme un homme. Pour la première fois de sa vie, elle se reposa sur lui, éprouvant en le faisant un sentiment bizarre.
« Tu me défendras ?»«
Bien sûr. »«
Je peux compter sur toi entièrement. Tu me protégeras ?»«
Mais oui, maman. »«
C'est vrai ?»
Elle se souleva à demi, prit la main de Nicolas, puis le visage rasséréné, le lâcha, tomba en arrière et resta ainsi immobile, les yeux fixés devant elle. Durant 2 semaines, Nicolas travailla dans une usine des environs de Paris, cependant que sa mère allait de théâtre en théâtre solliciter une place d'ouvreuse. Mais dès qu'elle se trouvait en face d'un employé quelconque, elle n'osait parler. Demander un emploi était au-dessus de ses forces. Elle préférait partir en laissant des gens qui souriaient d'elle que de répondre à l'interrogation d'un chef d'administration. Et ailleurs, cela recommençait exactement de la même façon. Chaque matin, Nicolas se levait à 5h30. De ne pouvoir bouger dans la pièce étroite, ni faire sa toilette, de revêtir des vêtements déchirés et sales, et de voir ses mains s'abîmer chaque jour davantage, lui était odieux. Sans embrasser sa mère, ni même lui dire au revoir, il partait pour l'usine. Habitué à trouver sur sa route des terrasses de café, des magasins qui l'intéressaient, il se sentait perdu en pénétrant dans le dédale de Billancourt, où une foule d'ouvriers qu'il ne soupçonnait pas, où des tramways, malgré l'heure matinale, circulaient comme en plein jour, où tout était nouveau et en même temps d'une force et d'une tristesse qui le dépassaient. Les portes de l'usine refermées sur lui, il avait l'impression d'être prisonnier, de ne plus pouvoir sortir, même si sa mère mourait, ou qu'on vint lui dire qu'un trésor se trouvait à tel endroit. Les heures passaient avec une lenteur désespérante. À midi, plus longtemps la sirène retentissait, plus il lui semblait qu'il redevenait lui-même. Il fallait, aux longues heures de travail, ce gémissement de plusieurs minutes pour les faire oublier. Nicolas se rendait dans un vaste réfectoire couvert de panneaux qui recommandait la propreté et le respect du temps. Il mangeait à peine, car l'argent qu'il gagnait servait à payer la chambre et à régler de petites dettes que l'on ne pouvait différer. Puis il sortait, s'asseyait au pied d'un mur ensoleillé à l'écart et attendait la sirène de la rentrée, en comptant les minutes sur la grande horloge de l'usine, en fumant des cigarettes, en pensant à tout ce qu'il eût fait s'il avait été riche et libre. Cet instant était le meilleur de la journée. Mais les minutes s'écoulaient avec trop de rapidité. Dès que son imagination élaborait des plans d'avenir, un quart d'heure fondait tout à coup. Aussi, par la suite, pour faire durer le temps, s'appliqua-t-il à regarder les aiguilles de l'horloge sans baisser les yeux une seconde et sans penser. Pourtant, c'était brusquement les mêmes sauts en lui. Chaque fois, l'heure de rentrée le surprenait. Il se levait alors avec peine. La paresse et le dégoût qu'il avait pour ce travail de force engourdissaient ses membres. Pour se stimuler, il répétait constamment « Encore 4 heures, 3, 2, et ce sera fini. C'est le dernier jour. » Il retrouvait seulement sa lucidité quand le directeur visitait les ateliers. Il fixait alors sur lui un regard plein d'admiration, enviant cet homme propre et alerte qui enjambait des matériaux, donnait des ordres et désignait de l'index les tâches à accomplir, et également les chefs de fabrication qui s'empressaient autour de lui. Il trouvait leurs occupations aisées, qui lui semblaient devoir consister seulement à prendre un air affairé et à approuver tout ce que disait le directeur. Pour être remarqué de ce dernier, il se mettait à l'écart. Il se demandait si on lisait sur son visage qui il était, alors que le reste de lui-même était semblable aux autres ouvriers. Le manège de Nicolas n'échappait pas aux ouvriers. Mais jamais ils n'en parlèrent, tellement cela leur paraissait secret. Un jour pourtant, le regard du directeur se posa sur le sien. Une seconde, il crut que toute sa vie était exposée à la lumière. Mais comme le directeur détournait la tête distraitement, il se rendit compte aussitôt qu'il n'était dans cette usine qu'un ouvrier semblable aux autres. Le soir, quand il rentrait, il s'emportait pour un rien et se plaignait de tout. À peine avait-il dîné d'un maigre repas qu'il s'étendait épuisé sur son lit, allumait une cigarette et lisait le journal du matin. « Je ne peux plus continuer, » disait-il à chaque instant. « Cesse, si tu veux, » répondait sa mère. Elle ne savait que faire pour que son travail lui parût moins pénible. Elle se privait pour que son fils ne manquât de rien. De désirer en même temps qu'il continuât de travailler et qu'il cessât, la rendait hésitante dès qu'il s'agissait de prendre une décision. Il y avait une semaine qu'il travaillait, qu'il commença à avoir des vertiges. Il durait à peine quelques secondes, durant lesquelles il avait le désir que cela continuât pour tomber vraiment, ne plus pouvoir travailler et être conduit à l'hôpital. Un après-midi, n'en pouvant plus, il s'écroula dans l'atelier, avec pourtant la conscience très nette que, s'il avait voulu, il eût pu se relever. Transporté à l'infirmerie, on lui fit prendre un verre d'alcool. À son retour, le contremaître lui dit « Ce que vous ne faites pas, ce sont les autres qui le font. » Nicolas sentait autour de lui des sympathies et des hostilités. Le traiter de femmelette, de poseur, de malin, cependant que d'autres s'intéressaient à lui, lui conseillait d'aller parler au chef d'atelier et de lui demander un poste moins pénible. Il tint ainsi 14 jours. Mais le 15e, au matin, il n'eut pas le courage de se lever. Cependant que sa mère, sans dire un mot, le regardait après avoir préparé son petit déjeuner, il suivait, dans son lit, la marche des événements que son absence provoquait. À 7 heures, il crut entendre la sirène. Il vit le flot entrer dans l'usine, les portes se refermer, et le contremaître, constatant son absence, répéter autour de lui « Je vous l'avais bien dit !» Il vit le visage de ceux qui sympathisaient avec lui. C'était fini, il était 8 heures. On travaillait depuis 1 heure et on l'avait oublié. Il était libre et seul maintenant. Il pensa au propriétaire de l'hôtel qui, quand il le verrait, lui dirait « On ne travaille pas aujourd'hui ?» Puis le moment où, le soir, il faudrait acquitter la chambre.